à l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Information en ce mercredi 17 avril, la grande première de l'émission du Raid international Témiscamingue 2023 a été présentée hier soir au cinéma du Rift. L'émission nous fait vivre les faits saillants de la deuxième édition du Raid Témiscamingue avec les athlètes de partout dans le monde qui ont parcouru plus de 170 km dans l'Est témiscamien. Daniel Poirier, cofondateur d'Endurance Aventure et directeur de la production télévisuelle qui sera diffusée dans plus de 150 pays et traduite dans 16 langues, nous parle du processus de création de l'émission.
Organiser un raid d'aventure, c'est déjà un casse-tête immense parce qu'il faut faire le plus beau parcours possible, faire découvrir la région et ses attraits, mais en même temps, on veut donner un défi aux athlètes. Puis on veut aussi qu'il y ait des spectateurs qui viennent. Donc, il y a une grande, grande logistique pour bâtir le parcours. Nous, l'équipe télé, on vient bâtir le parcours aussi parce que c'est très important. Parce que moi, mon mandat, c'est qu'une fois que le parcours est fait, c'est de dire où est-ce qu'on va amener les caméramans. Puis il faut savoir que les caméramans qui travaillent sur le terrain, c'est des athlètes parce qu'ils traînent leur matériel. Ils doivent travailler beau temps, mauvais temps. Souvent, ils vont être loin sur le parcours parce que si on veut aller filmer quelqu'un qui fait un rappel, vous allez voir une tyrolienne, il faut être capable de se rendre avec son matériel, d'utiliser le matériel en faisant du sport. Fait que c'est des gens qui ont un talent technique exceptionnel, mais qui sont prêts aussi à vivre dans la difficulté. Fait que nous, notre travail, avant que ça parte, on arrive plusieurs jours à l'avance. On bâtit un roadbook pour les caméramans. Puis le parcours, en moyenne, c'est 80 km par jour, avec environ une 25 points de contrôle. Puis là-dedans, il faut choisir quels vont être les plus intéressants et quels points de contrôle vont créer des histoires. Parce que ce qu'on veut dans l'histoire qui dure 30 minutes, c'est de montrer le plus beau paysage possible, mais on veut montrer des histoires humaines.
Marc Godette et Chloé Roberge ont fait partie de ces histoires humaines.
Ça a été une expérience vraiment super. C'est vraiment un dépassement de soi. Tu sais, on le faisait, moi puis Chloé, parce que tu sais, je suis directeur de l'école, puis Chloé est en enseignante en éducation physique. Puis on voulait aussi montrer un peu l'exemple aux jeunes qu'on est capable, on est capable de se dépasser avec la persévérance, tout ça. Fait qu'on voulait montrer ça aussi là, par rapport à nos jeunes.
Olivier Gironne et Samuel Weckmann étaient dans l'équipe jeunesse qui a été la première à franchir le fil d'arrivée. Ils nous parlent de leur expérience.
Ben c'est le fun de se promener dans notre nature là, au Témiscamingue, puis que ce soit pas fait ailleurs dans un autre pays, qu'on ait pu vivre ça ici chez nous.
Ça nous permet de nous dépasser. Pis c'est cool qu'il y a quelque chose pour les jeunes enfin au Témiscamingue.
Olivier et Samuel assistaient à la grande première de l'émission et se sont vus pour la première fois sur grand écran.
Ça fait bizarre de se voir sur un grand écran comme ça. On sait qu'on va passer à télé. Ça va être une première fois pour moi, à RDS, puis des grandes chaînes, puis surtout dans les autres pays. 650 pays, on va passer dans le monde entier.
Pour vrai, c'est vraiment cool de se voir sa face sur un grand écran de même. Puis on va pouvoir se voir sa télé, ça va être cool.
Marc Godette nous donne également ses impressions.
Un, ça fait drôle de se voir. On espérait de pas être coupé au montage, mais les images sont vraiment belles. Puis, tu sais, notre territoire, on avait vu le prologue jeunesse un peu avec quelques vidéos, mais là, on a vu des nouvelles images. C'est vraiment beau, le Témiscamingue. Fait qu'on est content de faire partie de cette aventure-là. On est content de faire partie de la prochaine qui s'en vient.
Selon Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue, la diffusion de cette émission donnera une excellente visibilité à notre région et sera une fenêtre ouverte du Témiscamingue vers le monde.
L'émission, la première édition du RAID en 2021, avait rejoint 1,5 milliard de téléspectateurs et de visionnements. Avec la qualité de l'émission qu'on a vue ce soir, j'ai aucun doute qu'il y aura autant de visionnements, sinon plus. La portion qui a été ajoutée, d'abord, c'est un RAID sur 3 jours, et la portion RAID jeunesse ajoute une dimension vraiment, vraiment intéressante pour montrer que c'est pas seulement de la performance d'athlètes, mais c'est aussi de la performance de gens ordinaires. On comprend que cette diffusion-là, c'est une fenêtre immense, ouverte du Témiscamingue vers le monde.
La troisième édition de cet événement d'envergure internationale, organisée par la Société de développement du Témiscamingue, la MRC de Témiscamingue et Endurance Aventure, est déjà en préparation. Chloé Beaulé-Poitras, coordonnatrice du RAID Témiscamingue, nous en parle.
C'est du 6 au 8 septembre prochain qu'aura lieu le RAID 2024, le RAID Témiscamingue, dans le nord du Témiscamingue. Donc, on va partir de Rimigny, en passant par Guérin, Nedlec, les Premières Nations, donc Témiscamingue First Nation, Notre-Dame-du-Nord, pour se conclure du côté de Saint-Bruno-de-Guigues. Alors déjà, les partenariats sont en branle avec toutes ces municipalités parce qu'on l'a vu à la présentation, il y a une belle mobilisation qui se fait de la part des municipalités hôtesses de l'événement et ça crée vraiment un bel engouement. Et comme là, la roue est partie, mais on sent que l'engouement aussi grandit.
Le député du Bloc québécois et d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, se dit déçu du budget fédéral déposé hier à la Chambre des communes et considère que plusieurs mesures annoncées sont de l'ingérence dans les compétences de la province.
Bien, sans grande surprise, le Bloc québécois va voter contre. Donc, je vais voter contre le budget, notamment parce que c'est un grand empiètement dans les compétences de Québec, des provinces. On amène de l'argent dans des secteurs où Québec a la responsabilité. Donc, Ottawa se prend pour une grosse province et ne joue pas son rôle de fédéraliste, donc de s'occuper de ses responsabilités selon la Constitution canadienne. Et ça, pour moi, c'est un problème. Puis, en bout de ligne, ben, c'est nous, le contribuable, qui va en être perdant. Dans le contexte, on annonce beaucoup d'argent pour le logement, mais en même temps, l'essentiel de ces sommes-là vont commencer après la prochaine élection. Donc, c'est comme si on pelletait au prochain gouvernement les responsabilités du gouvernement actuel. Comme je disais tantôt, on va dans l'assurance médicaments, l'assurance santé, donc on va rajouter des structures pour gérer des programmes quand on peut les gérer chez nous, et ça, ben, ça me pose problème. On s'ingère aussi dans la grille tarifaire d'Hydro-Québec sur en donnant un crédit d'impôt sur les énergies vertes, donc ça, j'ai bien hâte de voir comment ça va se faire, mais comme on dit en politique, le diable est souvent dans les détails, et dans le contexte actuel, ben, c'est des mesures qui risquent de faire mal, et ça, ben, pour moi, ça, je trouve ça plutôt problématique.
Des consultations publiques et un sondage sur l'avenir du Colisée de Saint-Bruno-de-Guigues se sont tenus les 13 et 14 février dernier. Ces consultations font suite à des études réalisées par le conseil municipal de Saint-Bruno-de-Guigues au printemps 2023 relativement aux travaux nécessaires pour assurer la pérennité du bâtiment construit en 1974. Un accompagnement de loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue a permis de réaliser les plus récentes consultations et 188 personnes se sont exprimées. Catherine Drolet-Marchand, conseillère municipale et membre du comité responsable du dossier Arena, nous dit ce qui est ressorti de cette consultation.
Ce qui ressort, en fait, c'est que la majorité des citoyens qu'on a consultés veulent améliorer l'Arena, veulent garder leur colisée de guigues bien en vie. La surface artificielle aussi, de glace artificielle, donc le hockey, très important de continuer à maintenir ça. Donc ça, c'est des choses qui ont sorti lors des consultations. Donc nous, au conseil, c'est certain, avec ces enlignements-là, ben nous, ça nous donne la légitimité là, de continuer à réfléchir à un projet qui peut répondre à ces besoins-là et qui va aussi concorder aux réalités financières d'un projet d'envergure comme la rénovation d'un aréna, par exemple.
Plus de 80 % des répondants veulent non seulement préserver leur aréna, mais désirent également étudier la possibilité de bonifier l'offre de services.
Oui, parce qu'en fait, ben, l'aréna comme tel, c'est pas qu'un aréna. C'est pour ça qu'on parle du Colisée de Guigues, parce qu'en fait, il y a le restaurant. Il y a le seul restaurant de Saint-Bruno-de-Guigues maintenant qui offre le service à l'année. Il y a aussi la possibilité de faire des spectacles. Le Festival Wesson l'utilise à chaque année. On a déjà fait des 31 décembre dans l'aréna comme tel, donc avec des spectacles à grand déploiement, là, la bottine souriante du Boulon en 2022. Donc, ça sert aussi de salles de spectacle quand on en a besoin, quand on veut se rassembler. Donc, c'est certain que avec ces trois disons, fonctions-là, déjà du Colisée, on est à réfléchir un peu comment qu'on peut réaménager peut-être l'infrastructure, mais toujours en se basant sur ce que les citoyens souhaitent, sur ce qu'ils veulent préserver comme service.
Madame Drolet-Marchand nous parle des prochaines étapes.
On a un comité de travail qui a été formé là, au sein du conseil. Peut-être qu'il va y avoir aussi d'autres personnes, pas nécessairement du conseil, qui vont se rajouter à ça. Mais certainement, là, on va commencer à réfléchir à un projet. On va s'adjoindre des spécialistes justement pour pouvoir le faire. Puis ça va avancer tranquillement comme ça. On est vraiment encore au premier balbutiement. On voulait simplement aller consulter la population pour être légitime dans nos actions, dans nos orientations. Mais maintenant qu'on a leur feu vert, on peut dire sur l'amélioration du Colisée, on va aller de l'avant là-dedans. Puis on va probablement reconsulter aussi la population là, au fil du temps, au fil de l'évolution du projet.
Et une étude de cartographie des flux de transport et d'approvisionnement sera réalisée au Témiscamingue. Il s'agit d'un mandat de la Société de développement du Témiscamingue qui a été confié à Logistique Login Incorporé, qui est une entreprise spécialisée dans les solutions logistiques et qui offre des services de consultation et d'optimisation des chaînes d'approvisionnement pour les entreprises de différents secteurs. Louis Kirouac, agent en stratégie numérique à la SDT, nous explique d'où origine ce mandat.
On a beaucoup de préoccupations par rapport au flux de transport qu'on a sur les différents territoires. Suite à la tournée que j'ai fait avec les restaurateurs et les dépanneurs et pour les gens qui travaillent du côté de l'alimentaire, on a parlé de beaucoup de choses. Et il n'est pas rare qu'on va arriver dans une communauté au Témiscamingue où on va avoir 2 à 3 camions de livraison en même temps. Et souvent, presque vide. À ce moment-là, on s'est dit, ben, peut-être qu'on serait mieux d'avoir un portrait global de tout ce qu'il y a comme flux de transport sur notre territoire. Et ça, ça touche tous les secteurs d'activité pour qu'on puisse être capable d'avoir... Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il y ait moins de camions vides qui se promènent sur nos routes?
Monsieur Kerouac nous parle des types de transports qui seront analysés.
On parle de transport alimentaire, on parle de transport de biens et de services, on parle de transport pétrolier, on parle de transport, et sur le territoire ici, de transport agricole. On parle de gens qui se déplacent avec des besoins que nos agriculteurs ont ici. Donc, c'est des camions complets qui se déplacent sur le territoire. On sait qu'il y a beaucoup de transports de colis qui se déplacent, particulièrement le temps des fêtes. On le sait qu'il y a beaucoup de gens, finalement, qui commandent en ligne, beaucoup de produits. Donc, on a-tu intérêt, justement, à savoir tout ce qui se passe sur notre territoire pour être capable de mutualiser certains services?
Un portrait de la situation avec des recommandations est attendu à l'automne.
On s'est dit, on veut pas que ça aille trop loin parce que le besoin est urgent. On a parlé avec certains producteurs, agro-transformateurs sur le territoire. J'ai jasé avec eux autres. Certains même ont arrêté de la distribution de leurs propres produits à cause des coûts de transport. Donc, il faut être capable de repenser un peu tout ça et de voir s'il y a des solutions qui sont applicables.
Ça complète votre bulletin d'information régional. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.